s'arrête là. Donc, la discussion est ouverte. Avec le souhait suivant, c'est que même si, enfin, bon, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, si on n'est pas d'accord avec certaines choses avancées ou certaines choses ne sont pas suffisamment claires, parfois il est bien de laisser la chose mûrir en soi pour soit l'écrire maintenant, soit l'écrire après, et en quelque sorte de se laisser traverser. J'allais dire, un peu comme l'année 2015 a parfois été douloureuse, de se laisser traverser par la douleur et de ne pas refuser les sentiments et les sensations qu'on a. Et donc, le souhait, c'est qu'on aille vers, bien évidemment, ce qu'on sent, mais aussi vers la conceptualisation et vers surtout, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la problématisation. Et d'essayer d'avancer dans la construction d'une problématique qui puisse nous aider à y voir clair. Voilà. Donc la parole est à vous sur cette première partie. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, première partie, présentation globale du séminaire, deuxième partie sur une autre histoire du nucléaire.
Le flux était important et intense, hein, digéré.
Une question là.
Oui, il y a quelqu'un dont je viens d'oublier le nom qui a inventé le concept de brutalisation appliqué.
Georges Mossé. Georges Mossé.
Oui, c'est lui. Et je pense qu'il évoque surtout le 14-18. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'il ne fallait pas oublier la guerre avant 14-18, à savoir russe contre japonais, où pour la première fois un peuple, enfin c'est pas exactement la première fois, mais ça a été dit comme ça, que pour la première fois un peuple non européen a vaincu un peuple européen, à savoir les japonais ont gagné contre les russes. Je crois que le nom de la bataille, c'est pour Arthur, un truc comme ça.
Oui, pour Arthur et Tsushima, il y a des batailles.
Et j'ai lu aussi que c'était pas forcément le premier exemple de guerre industrielle. D'autres ont écrit que la guerre industrielle, en fait, elle est apparue avec la guerre de... ce qui s'est utilisé comme arme lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Donc... c'est un petit peu plus compliqué que de dire seulement 14-18. Mais bon, globalement, c'est parfaitement vrai. De toute façon, d'une manière générale, ayant énormément lu Pichot, je suis totalement d'accord avec tout ce que je viens d'entendre sur l'analyse science, rationalité, darwinisme, eugénisme. Je suis vraiment, globalement, vraiment d'accord. De Pichot, je voudrais préciser le titre. Pour moi, l'ouvrage le plus important, à part Une société pure, c'est Aux origines du racisme occidental, de la Bible à Darwin. Un gros pavé où il y a l'audace, c'est le seul fait qui a été relevé par Journal Le Monde, d'oser pointer le fait que les plus enthousiastes par rapport aux théories eugénistes, c'était les sociologues juifs de la Prusse, qui immédiatement ont prouvé avec des outils statistiques de sociologie que effectivement les juifs en Prusse étant ceux qui payent le plus d'impôts parce qu'ils sont au meilleur poste de la société, à l'université, dans le milieu hospitalier, bancaire, etc. Ça prouve que les juifs sont effectivement le peuple élu, désigné par Dieu, et que c'est pour ça qu'ils payent le plus d'impôts. Et donc, les juifs sociologues prussiens ont immédiatement adhéré à la société eugéniste de Galton, et ça a été félicité par le grand rabbin de New York et le Berlin, parce qu'il y avait une preuve scientifique que les Juifs étaient bien le peuple élu. Et d'avoir révélé ce fait-là, qui est une infime partie du bouquin de Pichot, c'est le seul fait qui a fait hurler de rage les commentateurs dans le journal Le Monde.
Thierry, y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que, les questions de détail, ce séminaire ne vise pas à l'érudition. C'est-à-dire qu'effectivement, je connais ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la question, c'est par exemple sur la guerre, c'est en histoire, est-ce qu'il y a des ruptures ou pas ? Parce qu'effectivement, on peut parler de la guerre de sécession qui a introduit certaines choses, mais est-ce que la question est la suivante, c'est est-ce que 14-18, oui ou non, a été une rupture historique ? C'est ça la question fondamentale. Quant à la question juive, alors je propose de ne pas l'aborder maintenant parce qu'elle est hyper compliquée. On va se prendre les pieds dans le tapis, mais je ne la fuis pas. Je suis un lecteur de Shlomo Sand. C'est extrêmement compliqué. Donc ça, je propose de le mettre de côté. Ça sera abordé dans la quatrième séance, mais je reviendrai sans arrêt à ça. C'est peut-on oui ou non dire que ce qui se passe entre 14-18 est une rupture, y compris par rapport à la guerre de sécession où effectivement il y a déjà les mitrailleuses, mais se passe du point de vue des historiens autre chose en 14-18 quoi. Bon, je reviens sur une petite chose, s'il n'y a pas d'intervention. Donc la chose sur laquelle je voudrais revenir et qui est cruciale, qui est fondamentale, qui n'est pas forcément abordée, que même Pichot n'aborde pas. En fait, je n'ai fait que pousser les conséquences de Pichot grâce à la psychanalyse, les conséquences de ce qu'écrit Pichot grâce à la psychanalyse. C'est-à-dire que, en fait... ce qui se passe à partir de 1900, c'est-à-dire bien avant l'arrivée du nazisme, c'est qu'il y a il est devenu licite de faire un tri dans les populations de l'humanité sous le couvert de l'eugénisme, c'est-à-dire avec la légitimation du mode de connaissance scientifique. Et ça, ce que dit la psychanalyse, c'est que pour qu'il y ait une vie ensemble, pour qu'il y ait une vie sociale, pour qu'il y ait une société, pour qu'il y ait une civilisation, il y a ce que la psychanalyse appelle des tabous fondateurs ou bien des interdits fondateurs. C'est, par exemple, c'est l'interdit du meurtre ou c'est l'interdit de l'inceste et le respect dû aux morts, etc. S'il n'y a pas ces respects-là, s'il n'y a pas ces interdits-là, la vie en société ou une civilisation, etc., devient extrêmement difficile, surtout dans des sociétés modernes. Et donc, ce que l'histoire académique, y compris aujourd'hui, n'a toujours pas compris et n'a toujours pas enregistré, c'est que aux alentours de 1900, mais il faut être prudent là-dessus, ça ne se fait pas en 1900 évidemment, mais aux alentours de 1900, le mouvement eugéniste est un mouvement de masse, dans lequel il y a des rassemblements faits dans beaucoup d'États américains, avec des médecins, mais aussi des gens qui s'occupent des enfants, mais aussi des gens qui s'occupent de l'hygiène et qui sont dépendants des gouvernements. Et ça devient aussi des mouvements importants dans toute l'Europe qu'on pourrait qualifier de plutôt nordique, anglo-saxonne et réformée. Je dis ça parce que, en fait, le mouvement eugéniste en France et en Italie et en Espagne, il n'existe pratiquement pas. Pratiquement pas. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Et on peut pas dire autre chose. Et donc, en fait, ce qui se produit à ce moment-là, c'est contrairement, par exemple, à ce que je disais tout à l'heure dans l'enregistrement, c'est que non, Hitler ne débarque pas comme ça, et même pas avec Mein Kampf dans les années 20. Ce qui se produit, c'est une remise en cause fondamentale, fondamentale, parce que ça va au plus profond de ce qui détermine la vie en société, c'est-à-dire ces mouvements eugénistes balayent ce qui fonde même toute vie sociale, toute culture, toute civilisation. Et ça, qu'est-ce qui reste de l'humanité après ça? Pas grand-chose. Ça ouvre les portes, effectivement, à 14-18, qui approfondissent encore la question. Bon, et puis Eric Hobsbawm, l'historien anglais, a raison de parler de guerre de 30 ans. Quand on voit ce qui s'est passé dans les années 30, hier soir, je regardais 45 là, de Ken Loach, et il y a beaucoup de films d'archives des années 30 dans ce film de Ken Loach. Mais la première fois que j'ai vu ce film, je me disais, mais c'est pas possible, c'est le 19e siècle. Eh bien non, pas du tout. Ça montre un petit peu la...
C'est le vestiaire qui s'effondre.
Donc il y a quelque chose là de fondamental qui se produit en Occident, et c'est ce que j'appelle, ça fait partie des secrets de famille de l'Occident. Parce que s'il fallait revoir l'historiographie, l'histoire de l'Occident et l'historiographie de l'Occident comme ça, ben ça serait encore très gênant.
Ce que je voulais quand même pointer, c'est que avant la question de l'eugénisme, antérieurement, s'est posée, vous l'avez abordé d'ailleurs, cette grande question de la transformation du rapport aux soins et du rapport à la médecine sous la forme de l'hygiénisme. Cette question de l'hygiénisme, ça a été quand même un des grands points de départ d'une approche sociale et politique de la santé en direction non plus des individus, mais des populations. Et c'est là-dessus que s'est appuyé après le développement. L'hypothèse que je fais, parce que je n'ai pas suffisamment, moi, investigué dans le domaine, mais je pense que ça a été un point d'appui considérable après sur la... justement, qui est pour au développement de l'eugénisme proprement dit. Et quand même, c'est intéressant de réfléchir peut-être aussi cette question par rapport à ce qui fait la différence entre l'approche de la santé et de l'hygiène en Occident et la façon dont, comment dire, par exemple, les sociétés asiatiques ont abordé ça. Peut-être qu'il y a aussi une réflexion à avoir pour essayer de cadrer aussi les limites, les limites, en tous les cas, les fondements culturels de ces questions-là. Enfin, c'est juste une...
Moi, je suis contente que vous l'abordiez, parce que c'est d'abord quelque chose qu'on a beaucoup de mal à aborder. J'ai été prof d'histoire dans l'éducation nationale, c'est un tabou total, on ne peut pas en parler, ça va jusqu'à l'exclusion, c'est très très grave d'en parler, on ne peut pas en parler. Et par exemple, la COP21, à l'origine de la COP21, il y a le VVF, d'où ça vient, que ce soit dans la religion ou en dehors, on ne peut, c'est un sujet inabordable. Et d'autre part, le VVF était extrêmement important à l'origine de la COP21, et quand on connaît l'origine du VVF en 1920, il a été fondé par des eugénistes redoutables.
Le VVF, c'est quoi le VVF?
Qui se bat pour défendre les animaux. Qui a été mis en et qui se bat, qui défend les animaux, le mouvement vegan, c'est pas non plus quelque chose d'innocent. Il faut pas nourrir toute la population, il faut sauver les animaux, donc il faudra faire un choix. C'est très résumé, mais c'est comme ça.
Une question.
attendre.
Il y a encore deux, trois questions.
Oui, oui.
Juste, oui. On reprend un peu ce qu'on avait déjà discuté sur cette question, juste pour partager un peu. Je pense que c'est intéressant de voir aussi si on inclut, on a l'Occident qu'on parle aujourd'hui, si on inclut ce qu'il y a de l'Occident d'outre-mer, enfin, ce qui s'est passé déjà dans les colonies, dans le Brésil, par exemple, toujours bien, toutes ces choses-là, et observer, par exemple, que aux États-Unis, ça va se passer après la guerre de sécession, la libération des esclaves, donc dans un niveau juridique, au moins, formel, ils vont devenir des gens. C'est pas qui, c'est juste avant, ils n'étaient pas des personnes. Donc, peut-être aux États-Unis, au Brésil, c'est certain que, par exemple, tous ces tabous de mort et d'inceste, dans les gens qui n'étaient pas gens, pardon ? Ouais, non, dans les gens qui n'étaient pas gens, surtout par rapport au maître, au patron, non, c'est vraiment qui le là, il n'y avait pas cette relation. Donc, c'est pas par hasard que ça va surgir aux États-Unis juste après ça, parce que bon, il fallait une excuse maintenant scientifique, quoi. C'est évident, pour pouvoir maintenir une idée de supériorité de la race, comme on ne pouvait pas avoir une supériorité formelle, mais je pense qu'il faut voir que ces choses, elles étaient déjà là dans la constitution de ces sociétés, en fait. Elles sont, il y a 300 ans, 300, 400 ans, presque aux États-Unis, au Brésil, tout ça, où se construit, et ça c'est vraiment enraciné déjà. Mais il faut, et là je pense que ça c'est uniquement peut-être, il faut mettre ça dans l'histoire de l'Occident. C'est ça qu'il ne faut pas, séparer, je pense. Et là je pense qu'il faut peut-être, pour un prochain, bon, on a dit déjà, pour un prochain moment de ce travail, je pense qu'il faut inclure comme l'Occident extra-mer, en fait. Et ça, parce que sinon, ça va être, il va y avoir quelque chose qui manque dans ce chemin, que c'est vraiment très intéressant. Mais je pense que si on va là, on va voir que c'est pas, enfin, ça a été déjà développé là-bas, tout, c'est dans la pratique même. Et donc,
oui, je vais compléter justement ce qui vient d'être dit à propos des colonies et des esclaves. Hitler n'a pas tué un quart de l'humanité. Or, les chrétiens l'ont fait à partir de 1500. Il y avait 400 millions d'êtres humains sur Terre en 1500. Sur ces 400 millions d'êtres humains, il y avait 100 millions d'Amérindiens aux Amériques. Et donc, le plus grand génocide de tous les temps a été fait avec un autre argument que l'argument eugéniste, c'était l'argument de la vraie religion. Quiconque n'est pas de la vraie religion est une injure à Dieu et donc ne mérite pas de vivre. Et donc le tabou de la mort, il était levé avec l'argument de la vraie religion. Et on avait aussi des discussions à l'époque, mais ont-ils une âme ? Et c'était facile de dire, s'ils n'ont pas d'âme, et ben c'est un argument de plus pour les tuer. Donc, d'une certaine façon, de même que les esclaves n'étaient pas des gens, donc tuables, de même les sauvages n'étaient pas des gens, donc tuables. Et à partir de 1756, on va inventer le mot « civilisation » pour s'enorgueillir et justifier l'élimination des non-civilisés, à savoir des sauvages. Donc il y a eu une forme de rationalité avant l'eugénisme pour lever le tabou de la mort et faire des massacres de masse.
Mmh. Oui. Oui, tout à fait. Mais ce pourquoi j'ai pointé ça, c'est que... ça, on va le voir, si on soutient que 1945, c'est un point de bascule dans la civilisation capitaliste, et là, j'emploie le mot de civilisation, pourquoi ? Parce que c'est plus seulement à partir du moment où le mode de production capitaliste s'instille dans tous les pores de la société, ça n'est plus seulement un mode de production, ce n'est plus seulement une culture, mais ça devient en tant que telle une civilisation. Et si on soutient que 45, c'est une charnière dans l'histoire de cette civilisation capitaliste, alors là, on voit que c'est plus la religion catholique qui va servir à la guerre aux vivants qui s'installe après 1945, mais c'est le mode de connaissance scientifique. Et donc, ça, c'est aussi un autre impensé, mais incroyable. J'ai suivi un certain nombre de séminaires d'histoire des sciences, les premiers séminaires de Christophe Bonneuil, de Jean-Baptiste Fressoz, de François Jarige à l'EHESS à partir de 2012 et ailleurs. Les historiens des sciences seront peut-être les derniers à comprendre c'est ce mode de connaissance, mais de manière intrinsèque. C'est pas parce que il y a l'humanité est mauvaise ou qu'il y a une mauvaise utilisation de la science. Non, pas du tout. C'est intrinsèquement que le mode de connaissance scientifique va avoir une influence primordiale, c'est-à-dire structurer l'imaginaire de tout le monde, vous et moi, aujourd'hui même, encore et depuis un bout de temps, mais encore plus aujourd'hui, notre imaginaire, il est structuré par la rationalité calculatrice et transgressive. Il est structuré par ça, notre imaginaire, et c'est une puissance extrême. Alors, pour ceux qui ont connu des événements historiques, on sait très bien aussi que cet imaginaire, il n'est pas là pour toujours. Et parfois même, il peut se retourner en quelques jours. Et parfois, il suffit de quelques jours pour ébranler le monde, comme a dit John Reed. Mais, pour le moment, ces historiens des sciences, tous les historiens des sciences, et beaucoup de philosophes, n'ont pas compris que ça, c'est un des piliers sur lequel le capitalisme se repose. Il se repose sur notre imaginaire, à nous tous. Un imaginaire structuré par la rationalité calculatrice. Et si vous voulez, cette réflexion que je vous propose de mener tout au long de ces séminaires, elle vient aussi d'une question qui m'a taraudé pendant 25 ans ou 30 ans. C'est la suivante. C'est comment se fait-il que pendant 15 ans, 99% du peuple allemand ait adhéré au nazisme. On ne peut pas seulement l'expliquer par la coercition, on ne peut pas seulement l'expliquer par les SA, les SS et la violence, on ne peut pas seulement l'expliquer par la guerre. Il y avait quelque chose d'une adhésion qui s'est produite avec l'eugénisme. Ce que l'eugénisme amenait, c'est cette structuration de l'imaginaire sous forme de rationalité calculatrice qui permettait d'accepter ce que les nazis proposaient, c'est-à-dire d'éliminer ceux qui sont des bouches superflues. Et je rappellerai une chose, c'est qu'au départ, les lois eugénistes nazies en 1933 sont moins racistes que les lois eugénistes des États-Unis. Elles deviennent racistes et antisémites en septembre 1935 avec les lois de Nuremberg. Mais il y avait une certaine admiration d'ailleurs des nazis vis-à-vis des États-Unis, leur avance législative. Ils appelaient ça leur avance législative. Mais bon, il faudra en dire beaucoup plus parce qu'il s'est produit une espèce de... Ça aussi que l'histoire met sous le boisseau, des échanges à tous les niveaux entre les États-Unis et le nazisme qui seraient bien, venus d'historiciser. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose qu'on fasse une pause de 5 minutes et on attaque la deuxième partie, donc, sur une autre histoire du nucléaire et comment on peut l'analyser. Je dis bien une autre histoire du nucléaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ?
Non, pas grand-chose. Oui, sur les liens eugénisme, hygiénisme et un certain naturalisme, on retrouve Osborne, Fairfield, le père. Le fils a écrit dans la préface de La planète au pillage, on vient de terminer une guerre, mais il y en a une autre qu'on continue, c'est la guerre à la nature. Je disais la guerre aux vivants. Et puis en France, on a eu Alexis Carrel. J'ai dit ça. J'ai pas vu Pichot, mais bon. J'ai lu Alexis Carrel longtemps, bien longtemps.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Oui, moi simplement parce que. Moi je l'avais jamais envisagé comme ça, quel rapport pouvait avoir la psychanalyse sur une histoire. Sur une histoire d'une civilisation. Je sais pas, mais peut-être pas cette séance-là. Ah ben, remarque, c'est la science, sûrement que j'ai rien dit, mais parce que typiquement, moi, les tabous civilisationnels, j'y connais rien. Et je pense que j'aurais besoin de quelque chose là-dessus, mais c'est vrai que c'est le programme, la séance suivante, je suppose. C'est ça. Bon, j'ai rien dit. Et sur la question de la rationalité calculatrice, l'adhésion à quelque chose de commun, moi je trouve assez éclairant l'incapacité du parti communiste allemand à s'opposer au nazisme, quoi, et c'est pas, elle est peut-être quelque part par là aussi, quoi, sur un imaginaire qui est facilement colonisé parce que qui a ça en commun. C'est une question, hein, j'en sais rien.
Ça fait partie de tous ceux sur quoi on est d'accord, je pense. Quand on a étudié un peu l'histoire des années 30, tout le monde est d'accord pour dire, bon, la Grande Dépression, les revirements du Parti communiste, le stalinisme, la social-démocratie qui s'effondre, toutes les organisations du mouvement ouvrier... qui sont avec les corps francs, ça commence en 1919, les corps francs juste après la fin de la guerre attaquent le mouvement ouvrier, la mort de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, etc. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est autre chose. Ça, je suis d'accord, bien évidemment. Les effets de la guerre de 14-18 aussi en Allemagne, comme en France, mais encore plus en Allemagne avec les dettes de guerre, etc. etc. Tout ça, c'est du connu. Enfin, je présuppose que c'est du connu, donc ce que je pense, c'est autre chose. Ce qui préoccupait, c'est que c'est même avec toutes ces causes-là, encore une fois, on ne peut pas.
Oui. C'est autre chose que je comprends complètement.
Contre.
Quand on dit que le peuple a 99% adhéré, c'est tellement plus complexe. D'abord, les gens, beaucoup n'étaient pas au courant, et c'est vrai. Je veux dire, il ne faut pas insulter le peuple allemand. Et par contre, les Français étaient aussi très eugénistes et très antisémites. Mais on ne peut pas dire 99%. Je trouve que c'est des chiffres qui ne peuvent rien dire. Excuse-moi.
Non, un truc facile sur l'eugénisme.
Dire que
sur l'eugénisme français.
99% du peuple allemand. Bon, déjà, je trouve que c'est une assertion qui m'étonne beaucoup. Et c'est ni historique, ni sociologique, ni ça ne veut rien dire. Ou c'est juste une provocation pour parler.
Et puis de vouloir chiffrer, c'est peut-être aussi...
Si c'est juste une provocation, d'accord, mais je ne peux pas accepter ça.
C'est une litote, mais en même temps, est-ce que vous acceptez que le fait que le 60% des médecins étaient nazis?
Non, 50% des médecins ont participé aux expérimentations. Mais attention, les médecins encore vivants et encore en Allemagne. Avant, on a eu un laminage total de tous les médecins qui étaient soit morts, soit enfermés, soit qui étaient en fuite. Je veux dire, ceux qui restaient après 38, oui.
Non, même avant.
50% ont participé aux expérimentations.
Bon, alors là...
Mais avant, il faut voir la saignée qu'il y a eu. Je veux dire, les démocrates, aussi bien en Autriche, on parle jamais d'Autriche. Il faut aller visiter Mauthausen, il faut voir que pendant Mauthausen est ouvert, d'abord pour les sociaux-démocrates, pour les communistes, et les juifs bien après. Il faut voir le laminage qu'il y a à partir du moment où en 33 il prend le pouvoir. Je peux dire en un an, c'est hallucinant, quoi, le nombre de gens qui disparaissent. Et donc, oui, après, il y a 50% des gens qui partent, des médecins qui participent aux expérimentations dans le camp.
Non,
mais actuellement, je voudrais savoir combien de généralistes ne participent pas aux expérimentations avec les laboratoires pharmaceutiques.
Bon, là, on touche à des questions.
On n'en aurait pas 10%.
On touche à des questions qui vont très profond dans les tripes, quoi.
Ouais, mais très dans notre quotidien.
Oui.
On nous donne un médicament et nous participons actuellement à chaque médicament que nous donne un généraliste à une expérimentation d'un laboratoire.
Donc je propose qu'on laisse ça travailler, qu'on fasse une pause. Simplement, comment dire, c'était une litote, 99%, c'est-à-dire c'est une majorité.
J'ai des enfants allemands, donc c'est un peu gênant.
Ce qui reste des 99%, c'est l'enthousiasme d'une majorité, malheureusement.
Mais,
tu peux juste répéter le programme, tu as parlé de 4 séances.
Oui, la séance suivante, c'est sur une vision critique de la psychanalyse. Celle d'après, c'est
une critique
de la démarche scientifique. La quatrième, sur du darwinisme au nazisme. Et là, on va aborder cette question. Hein. Et la cinquième, sur... quelle approche de philosophie politique on peut avoir de la situation aujourd'hui et qu'est-ce que peut recouvrer le concept de totalitarisme démocratique, quoi. Donc je propose qu'on fasse une pause et puis qu'on embraye après sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'autre histoire du nucléaire. Alors si vous voulez, on aborde le deuxième point. Donc, j'ai intitulé une autre histoire du projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'était le nom de code donné au projet d'élaboration d'un, ce qu'on appelait à l'époque, un explosif nucléaire. C'est un projet qui est, dès le départ, un projet secret et hors norme. Et qui va démarrer, comment dire, très très lentement aux États-Unis. On pourrait même dire que à ce moment-là, dans le monde, tout ce qui concerne cette question est très réduit, bien qu'on sache que des brevets aient été déposés par Joliot Curie en 39 et en 40. Et le point de départ de cette recherche, c'est celui de la fission de l'atome. Et l'hypothèse faite à ce moment-là, c'est que la fission d'un atome pourrait dégager 100 000 fois plus d'énergie que la combustion de l'hydrogène dans l'oxygène. Et donc très intéressant du point de vue de sa puissance déflagratrice. Je vais parler pratiquement uniquement que des États-Unis, un peu de la Grande-Bretagne, vous allez voir. Donc en 1941, les Britanniques sont beaucoup plus avancés que les États-Uniens. Et ils font en juillet 1941 ce qui est connu sous le nom de rapport MOAD, Military Application of Uranium Detonation. Et ils font parvenir ce rapport sur leur propre recherche concernant la fission de l'uranium aux États-Unis. Et en même temps qu'aux États-Unis, les contrats de recherche entre 1939 et 1941 sont multipliés par 50. On pourrait dire qu'entre le printemps 42 et décembre 43, c'est le vrai démarrage du Manhattan Project. Parce qu'au printemps 42, à Berkeley, il y a un séminaire qui se tient entre toutes les plus grandes sommités du monde physique, du monde de la science physique, sur la faisabilité de la fission et sur le type de bombe. À ce moment-là, déjà est discutée la question de comment faire en sorte qu'il se produise une réaction en chaîne dans l'uranium et plus tard dans le plutonium. Et plusieurs hypothèses sont déjà avancées dans ce séminaire du printemps 1942 auquel assiste Oppenheimer notamment, mais pas que. En septembre 1942, quelqu'un qui s'appelle Leslie Groves, qui est un haut gradé du génie militaire américain, qui avait supervisé la construction du Pentagone, qui reste encore à ce jour le plus grand immeuble de bureau du monde, est nommé comme chef du projet. Et là, les choses vont s'accélérer, et bougrement s'accélérer. Et notamment à travers ce qu'on a appelé la mise en place d'une stratégie parallèle, c'est-à-dire à faire en même temps la recherche scientifique, les expérimentations, la construction des sites, la construction des usines et la construction des bâtiments qui va leur servir d'appoint. Tout est fait en même temps, sans même au départ qu'il y ait une garantie quelconque qu'on arrive à un résultat militaire intéressant. Bon, en décembre 1942, est construit sous les gradins du stade de Chicago le premier réacteur au graphite. Et là, on voit qu'il est possible de contrôler une fission à certaines conditions. Donc un modérateur, un fluide caloporteur, etc. Et en même temps, donc, entre le printemps 1942, c'est-à-dire après la déclaration de guerre des États-Unis, et puis décembre 1943, en même temps, tous les grands groupes industriels états-uniens entrent dans le projet. Dans le projet, dès le départ, il y a, devinez qui, par exemple, au hasard, Monsanto, Westinghouse, Union Carbide, Kodak, DuPont. C'est-à-dire, beaucoup, beaucoup des grosses industries américaines sont déjà partie prenante du projet. Il y a au départ quatre obstacles à franchir qui sont, comment se procurer de l'uranium, est-ce qu'il est possible à partir d'un réacteur d'obtenir suffisamment de plutonium. Troisième question, c'est comment séparer les isotopes de l'uranium, étant donné que seul l'uranium 235 est fissible. Et puis le quatrième problème, c'est le choix de l'arme qui va être fabriquée grâce à cette réaction en chaîne. Au départ, par exemple, il était envisagé de fabriquer des torpilles et des mines, et ça a été vite abandonné au profit de bombes transportables par les avions. En quelque sorte des heureux hasards pour ceux-là, en tout cas pour ceux qui étaient dans le projet, c'est que sur l'île qui est à côté de Manhattan, à Staten Island, il y a 1200 tonnes d'uranium qui étaient stockées par un monsieur Sangier, qui était directeur des mines au Congo belge, et qui avait entendu parler de la possibilité éventuelle de l'utilisation de l'uranium. Et donc, en bon capitaliste qu'il était, il a mis à l'abri, sous les conseils du gouvernement belge d'ailleurs, les 1200 tonnes d'uranium qui avaient été extraites de ces mines à Staten Island, et donc qui étaient disponibles. C'est important à retenir ça. Il est important de retenir ça, je dirai pourquoi à la fin. Je vais passer assez rapidement sur ce que j'appelle le mythe des 2 milliards de dollars. Encore aujourd'hui, des historiens prennent pour argent comptant que le projet, dans sa globalité, a coûté 2 milliards de dollars de l'époque. Il est important de prendre la bonne dimension du projet. On verra que c'est il y a une importance à le faire parce que certains, par exemple aujourd'hui, disent que les Allemands étaient prêts de développer aussi le projet nucléaire. À travers toute l'explication du projet Manhattan, on verra que c'était loin d'être le cas. Pour donner un exemple. Ce que j'ai calculé en faisant un travail sur les archives, c'est que en fait, ce projet avec les chiffres que j'ai pu avoir, parce qu'il est très difficile de vérifier tous les chiffres, mais ceux que j'ai pu vérifier, je l'explique dans le manuscrit qui est en cours d'édition, là, le projet en fait se montait à plus de 3 milliards de dollars de l'époque, ce qui fait aujourd'hui à peu près, enfin en dollars 2012, 51 milliards de dollars. Et par rapport au temps qu'il a pris, ça veut dire 17 milliards de dollars annuels, 17 milliards de dollars 2012, chaque année que s'est déroulé le projet, c'est-à-dire de 1942 à 1945. Pour référence, le projet Apollo, ses dépenses annuelles, c'était de 6 milliards et demi de dollars 2012, et le projet de conquête de l'espace de la NASA, c'était 15 milliards de dollars 2012. Donc ça vous donne un peu une échelle de ce qui a été investi dans ce projet. Et j'ajoute que sur les 32 sites que comportait ce projet, environ 600 000 personnes au plus haut de la construction des sites ont travaillé sur ce projet, et au plus bas étage, 120 000 personnes étaient embauchées. Ça représente ce projet, alors ça c'est quelque chose qui nous intéresse plus, un saut industriel. C'est-à-dire que, par exemple, il faut avoir une idée de ce qu'était le... il y a eu trois sites principaux dans ce projet, c'était Oak Ridge, Hanford et Los Alamos. À Hanford faisait 15 fois la surface de Paris. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. 15 fois la surface de Paris. Il y avait 1200 bâtiments, 100 km de route, 250 km de voies ferrées et 55 000 employés en juin 1946. Pour amener ses employés à Hanford, il y avait une flotte de 900 bus, c'est-à-dire une flotte de bus plus importante que celle de Chicago à l'époque. Donc ça vous donne un peu... Vraiment, quand on plonge dans l'histoire du projet, on s'aperçoit des dimensions incroyables de ce projet. Ce qui allait avec ce projet, c'est que en fait, les militaires ont mis la main très rapidement sur ce projet. Il y avait une espèce de guéguerre, si j'ose dire, entre les scientifiques universitaires et les militaires pour la direction de ce projet. Et très vite, sous la direction de Groves, les militaires ont pris le pouvoir et, par exemple, à Los Alamos, tous les services secrets étaient présents, militaires et autres, et pour la surveillance, ne pouvaient entrer à Oak Ridge, à Hanford, et à Los Alamos que des gens qui étaient badgés, et c'était sous surveillance permanente. Et donc, l'organisation de ce Manhattan Project, c'est encore aujourd'hui l'organisation de tous les grands, très 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 grands bureaux d'études. Par exemple, moi, j'ai fait partie du bureau d'études d'aéroports de Paris, qui a construit 170 aéroports dans le monde. Eh bien, la structuration des grands bureaux d'études, elle est issue de la structuration qui a été mise en place dans ce Manhattan Project. C'est-à-dire, il y a une structuration fonctionnelle. Par exemple, vous avez une division d'architecture, une division des courants forts, une division des courants faibles, une division de la structure béton, une division seconde œuvre, etc. Et pour chaque projet, quelques personnes de ces divisions se rencontrent suivant un rythme prévu par le projet lui-même. Donc il y a une double organisation, une organisation fonctionnelle et une organisation organisationnelle par projet. Eh bien, c'est le projet Manhattan qui a inauguré ça. Et d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Sylvain Lenflet, qui est polytechnicien et qui enseigne à Cergy, lui, il soutient que du point de vue de l'innovation technologique, on n'a pas fait mieux depuis ce projet Manhattan. J'aborde maintenant un second point important aussi, c'est comment et pourquoi fut prise la décision de bombarder. Quelques dates, je vais essayer d'aller très vite. Janvier 45, c'est la libération d'Auschwitz, et c'est en même temps aux États-Unis le début des expériences sur les human products, c'est-à-dire des expériences par lesquelles on injecte de l'uranium à des personnes sans leur consentement, pour voir ce que ça produit dans le corps humain. Et là, je voudrais signaler une chose, c'est presque un appel. Il existe quelque chose de très très bien sur le Wikipédia en anglais, d'Angleterre, pas des États-Unis, sur les human products, 11 pages énormément bien documentées et qui ne sont pas traduites en français. Et que ça serait, à mon avis, très très important de les traduire en français. Si ça intéresse quelqu'un, je veux bien participer au travail, mais c'est un sacré boulot parce qu'il y a 11 pages, il y a des dizaines et des dizaines de documents en notes, de bas de page, etc., etc. C'est vraiment un travail sérieux, mais qui n'existe pas en français. En tout cas, sur Wikipédia. Au printemps 1945, la marine japonaise est quasiment HS. Il y a un bombardement des villes massif qui fait que, suivant les estimations, il y a entre 800 000 et 1 200 000 morts au Japon, 9 millions de civils déplacés, suivant certaines estimations. Et par contre, ce qui se passe du point de vue militaire états-unien, c'est que les objectifs, c'est une citation, les objectifs civils faisant défaut, on envisage maintenant de bombarder les voies de communication. La bataille d'Okinawa, qui est décisive, est perdue le 21 juin. Et après Yalta, donc en février, la rencontre entre les alliés, Molotov rompt le pacte de neutralité avec le Japon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un engagement de Staline à Yalta qui est le suivant, c'est que dès que la guerre sera terminée en Europe, il s'est engagé à déclarer la guerre au Japon 3 mois après. Et en fait, bon, comme vous savez, la guerre s'est terminée en Europe le 8 mai 1945. Et quelques jours après, Staline a déclaré la guerre au Japon, mais il fallait auparavant, il y avait un pacte de neutralité entre l'Union soviétique et le Japon, donc il a rompu, ce pacte a été rompu, de façon à préparer la déclaration de guerre. Et il s'était engagé aussi à Yalta à intervenir contre le Japon, donc dans les 3 mois suivant la cessation des hostilités en Europe. Le 13 avril, après la mort de Roosevelt, Truman accède au pouvoir aux États-Unis. Ça, c'est important à signaler parce que, grosso modo, d'après les archives, Truman, il avait une intelligence à peu près du même niveau que celle de Bush fils. Il a été balancé là. D'abord, il a été sénateur du Tennessee parce que c'était bien pratique d'avoir un homme de paille consentant. Et il a été balancé comme vice-président en juillet 44 au congrès de juillet 44 parce que pour écarter Wallace qui était quelqu'un qui était beaucoup plus à gauche y compris que Roosevelt. Et donc c'est à ce moment-là, en avril, c'est dans ce mois d'avril, entre le 13 avril, l'accession au pouvoir de Truman, et la fin avril, que, en fait, va se décider le bombardement du Japon. D'une part, parce qu'il va falloir justifier toutes les dépenses du projet Manhattan. En fait, Truman avait lui-même lancé en 1941 ce qu'on appelait la commission Truman du Sénat, qui était destinée à éplucher tous les comptes des industries pour savoir si, comme certaines l'avaient fait entre 14 et 18, ne se sont pas enrichies indûment sur le dos de l'État et des citoyens. Et, par exemple, à l'époque, Dupont de Nemours avait été accusé de s'être enrichi sur les morts qu'avait entraîné la guerre de 14-18, et ça avait été un gros, gros problème pour Dupont de Nemours. À ce moment-là aussi, en avril, est constitué le comité de la cible. Ça, c'est un comité de la cible qui est intrinsèque au projet, enfin, qui est interne, pardon, au projet Manhattan en tant que tel, et ce qu'on appelle le comité intérimaire, qui est lui un comité qui est destiné à conseiller Truman sur les usages, sur d'abord sur la justification des comptes du projet Manhattan et sur les usages qui pourraient être faits de l'énergie nucléaire après-guerre. Ça, c'est, ça s'appelle le comité intérimaire, Interim Committee. Donc, 8 mai 45, cessation des hostilités en Europe. Et le comité de la cible fait un certain nombre de propositions, et notamment, il propose, par exemple, de bombarder, avec les premières bombes atomiques, de bombarder Kyoto. Et pourquoi il propose de bombarder Kyoto? Parce que, ça, c'est des arguments qui sont retrouvables dans les archives, c'est que, comme ils disent que Kyoto est une ville culturelle, il y a donc une population qui est majoritairement à un niveau culturel beaucoup plus élevé qu'ailleurs, et que donc la conscience de ce que l'arme nucléaire sera, c'est une arme nucléaire totalement nouvelle et totalement épouvantable, sera beaucoup plus élevée si on bombarde une ville comme Kyoto qu'une ville comme Hiroshima ou Nagasaki. Et finalement, en fait, c'est le secrétaire à la guerre qui avait été à Kyoto, Stimson, qui va s'opposer au bombardement de Kyoto. Mais vous voyez le type de raisonnement qu'il y avait dans ce bombardement, dans ce comité de la cible. Par exemple, notamment, ils ont écarté Tokyo, parce que Tokyo, en mars 45, avait été l'objet de bombardements massifs, donc il ne restait plus grand-chose de Tokyo. Donc ils disaient, pour prouver la puissance de la bombe, il faut bombarder une ville qui n'est pratiquement pas touchée. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont éliminé toutes les villes et qu'ils ont gardé au départ. Il y avait Hiroshima, Niigata et puis Nagasaki et d'autres. Les principales personnes dans la décision de bombarder sont donc Stimson, le secrétaire à la guerre, Barnes, qui est un arriviste et qui va devenir le secrétaire d'État en juillet d'après, Oppenheimer, qui aura fait des pieds et des mains pour faire en sorte que les villes soient bombardées, parce qu'il y avait eu des propositions, soit par le rapport Frank, soit par d'autres, notamment des intellectuels, et notamment Einstein, qui a écrit une seconde lettre en 45 à Roosevelt pour lui dire de pas bombarder les populations avec l'arme nouvelle. Et donc Oppenheimer et les trois autres personnes vont s'avérer être les personnes les plus déterminées à l'usage de ces bombes atomiques contre les civils japonais. Il y a, par exemple, entre mai et juillet 45, il y a 8 tentatives du gouvernement japonais pour négocier la paix. Mais, en fait, l'affaire est ficelée dès fin juillet. Comment est-ce que l'affaire est ficelée? C'est-à-dire que dans les conditions de négociation ne sont pas stipulées l'avenir du trône et l'avenir de l'empereur au Japon. Or, ça, ce sont des conditions qui, si elles ne sont pas abordées, ne sont pas acceptables pour les Japonais. Et les États-Unis le savent parfaitement. Ce qui fait que, à un certain moment donné, Truman, qui est beaucoup sous l'influence de son entourage, se pose cette question, mais enfin, ne faut-il pas ouvrir la porte à une reddition des Japonais en tempérant les termes de proposés à la reddition. Dans son voyage vers Potsdam en juillet, Barnes va remporter le morceau, et cet article 12 qui disait que dans les conditions de reddition, il n'était plus exigé la démission de l'empereur et la destitution, sa destitution, etc. Eh bien, il arrive dans la discussion sur le bateau qui l'emmène à Potsdam, donc avec Truman, à rétablir cet article 12, ou l'enlever, je ne me souviens plus, excusez-moi, et donc en fait à durcir les conditions, ce qui fait que tout le monde sait dans l'administration états-unienne qu'en mettant ces conditions-là, les conditions sont inacceptables. D'ailleurs, la décision de... Alors là, j'avance un petit peu. La décision de bombarder est donnée à l'armée le 25 juillet et l'ultimatum est envoyé le 26, le lendemain. En fait, les décisions donc sont prises pour une raison simple, c'est que quand il arrive au pouvoir, Truman, il sait que la première bombe n'est pas encore prête. En fait, il y a des difficultés. Les premiers grammes de plutonium en provenance de Hanford arrivent le 2 février 1945 à Los Alamos, là où se fabriquait la bombe. Et il y a un certain nombre de difficultés. Et en plus, Oppenheimer n'était pas sûr de cette conception de la bombe au plutonium parce que c'était une conception implosive. Alors là, juste un mot. Il y a eu deux bombes atomiques, donc la bombe atomique à l'uranium qui a été balancée sur Hiroshima et la bombe atomique au plutonium qui a été balancée sur Nagasaki. Et la bombe atomique à l'uranium qui a été balancée sur Hiroshima, c'était une bombe atomique de conception, on va dire, entre guillemets, classique, qui faisait appel à la détonation, c'est-à-dire à rassembler deux parties d'uranium de façon à faire une masse critique et à déclencher la réaction en chaîne dans cette masse critique. Alors que pour la plutonium, ce mode de détonation, c'est-à-dire rassembler deux parties comme ça avec des objectifs, avec des explosifs classiques, n'était pas possible. Il a fallu avoir une autre conception qui est la conception de l'implosion, ce qu'on appelait l'implosion, c'est-à-dire que en fait c'était une sphère de plutonium. Et tout autour, il y avait une sphère d'explosifs. C'était extrêmement compliqué parce que ça n'avait jamais été fait dans le monde. Et il fallait que, de tous les côtés, il y ait une poussée pour faire en sorte que la sphère creuse devienne une sphère pleine, atteigne la masse critique et que démarre la réaction en chaîne. C'était, je passe vraiment sur les détails, mais c'était, ça n'avait jamais été fait. Donc Oppenheimer dit à Groves, on n'est pas sûr d'arriver au truc, il faut qu'on fasse un essai. Et en fait, c'est cet essai-là qui est fait le 16 juillet 1945, c'est-à-dire la veille du début des entretiens de Potsdam. Juillet 1945. La veille des entretiens. L'essai, le premier essai. Et donc, quand ils vont, Staline est mis au courant quelques heures plus tard. Bon, et en fait, quand Truman et puis Churchill vont entre négociations à Potsdam, ils n'ont pas encore pris la dimension du problème. Ils reçoivent câble sur câble de la part de Groves et des autres. Et quand ils entrent en négociation, un de leurs assistants dit « On les a vus entrer dans la salle de négociation comme des enfants qui avaient des grosses pommes rouges dans leur poche. » C'est-à-dire comme des gens qui savaient quelque chose que les autres ne savaient pas et qui leur donnait une supériorité sur les autres. Et effectivement, ça leur donnait une supériorité sur Staline et sur les autres. En fait, la question, c'est aussi la suivante. C'est la question qui ces discussions de Potsdam, alors que Churchill n'arrêtait pas d'envoyer télégramme sur télégramme à Truman pour débuter cette conférence, puisqu'il y avait eu le 8 mai 1945, c'était déjà produit. Donc il fallait débuter une conférence suite à la fin de la guerre en Europe. Truman a fait tout ce qu'il pouvait faire pour retarder la conférence de Potsdam de façon à ce qu'il sache si la première bombe atomique avait fonctionné ou pas. Et il envoie, par exemple, quand Churchill le presse à plusieurs reprises de commencer la conférence internationale, il envoie ce câble à Churchill en disant « Mais on ne pourra pas commencer quelque chose avant le 30 juin parce que c'est là que se termine l'année comptable pour les États-Unis, donc je peux rien faire, c'est l'année comptable qui se termine le 30 juin, il faut attendre le 30 juin pour commencer. » C'est un peu n'importe quoi, je veux dire. Bon, c'est à la hauteur d'ailleurs de son intelligence légendaire. Et tout ce qui s'est tout ce qui s'est produit entre mars 45 et juillet 45 avait pour but d'attendre cet essai soit concluant et que les autres bombes soient préparées. Et en fait, Oppenheimer explique, et les autres expliquent, ils ont travaillé d'arrache-pied pour que ce soit prêt. Alors, un mot sur qu'est-ce qui se passe à Los Alamos, dans la tête des scientifiques, en 44. En 44, en fait, tout le monde sait, notamment à Los Alamos, que la bombe telle qu'elle avait été préparée, c'était contre les nazis. À partir de la lettre d'Einstein et puis donc le point de départ c'était ça, c'était de fabriquer une bombe atomique et en essayant de devancer les nazis. Et en 44 tout le monde sait que on va vers la défaite des nazis et donc il est plus que la bombe atomique qui sont en train de se préparer, certains se posent des questions. Et il n'y a qu'une seule personne qui ait quitté Los Alamos parce que, il avait conscience que cette bombe atomique ne serait pas utilisée contre les nazis, mais comme la première l'arme de toute puissance pour les États-Unis, c'était Joseph Rotblat. Rotblat est parti et ce n'était pas facile. Parce qu'il était comme tous les autres sous surveillance. D'ailleurs, le FBI a monté, quand il est retourné en Angleterre, en décembre 1944, quand il est retourné en Angleterre, il était d'origine polonaise, et le FBI a monté un dossier pour lui en disant qu'en fait, c'était un espion et qu'il était parti du projet Manhattan parce qu'il voulait transmettre les secrets militaires nucléaires à l'URSS. Donc, la question se pose, c'est pourquoi tous ces scientifiques ont continué à préparer la bombe, puisque c'était plus le point de départ avait été abandonné, et en fait, pratiquement tout le monde était au courant qu'il s'agissait là, de balancer ses bombes contre le Japon, et deux, d'en faire une démonstration de puissance internationale. Et ça pose de sacrées questions. Je vais aller plus vite. Ce qui est important, je vais sauter beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, je le mettrai en ligne. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé lorsque Hiroshima, finalement, puis Nagasaki ont été bombardés? En fait, d'abord un détail, il faut savoir que entre le 6 août, premier bombardement d'Hiroshima, et le second bombardement, le 9 août, à Nagasaki, se tient à Londres le 8 août, une conférence qui va mettre sur pied le tribunal de Nuremberg et qui va statuer sur les déterminations de ce qu'est un crime contre l'humanité. Et c'est à Londres le 8 août, c'est-à-dire exactement entre les deux bombardements, que commence à se mettre en place le tribunal de Nuremberg et en même temps il commence à s'élaborer cette notion de crime contre l'humanité, dans laquelle, chose extrêmement curieuse pour une élaboration juridique, les alliés de prime abord s'excluent du fait de pouvoir eux-mêmes être accusés de crime contre l'humanité. C'est un peu bizarre comme élaboration juridique.
L'armée française est toujours.
Ça n'a pas changé.
L'armée américaine n'est coupable de rien nulle part.
Voilà, exactement.
C'est dans le texte ou
Oui. C'est dans le texte de départ. Dans le texte de départ.
Ah oui, dès le départ.
Oui.
C'est écrit textuellement.
Ah oui, non, mais textuellement, il faut les lire, les textes.
Oui. Tout à fait.
Mais ça n'a jamais été rectifié. Hein.
Alors, après, les notions de départ, les trois notions de départ qui définissent le crime contre l'humanité se sont, je dirais, étoffées, élargies depuis 1945. Et je vais en venir à ce point de crime contre l'humanité, parce que ça, et c'est quelque chose de très important. Mais avant ça, je voudrais signaler ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. En fait, dès le lendemain du bombardement de Hiroshima, il y a un certain nombre d'équipes militaires et civiles japonaises qui arrivent sur les lieux. Il y a, je les ai comptées, il y a à Hiroshima plus de 18 équipes et 2000 personnes qui travaillent, à la fois pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, puisque c'est la première fois qu'on a affaire à ce type de bombardement. Mais très vite, au bout de 2-3 jours, et le 10 août, bon, c'est devenu une certitude qu'il s'agit d'un bombardement atomique. Et il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Tsuzuki Masao, qui lui arrive fin août, qui est un biologiste spécialisé dans la question des effets des radiations qu'il a étudié dans les années 20 au Japon sur les lapins, parce qu'il avait fait ses études de biologie en Pennsylvanie en 1925-26. Et Tsuzuki Masao arrive le 30 août. Dans son équipe, il y a 33 personnes, il y a 150 chercheurs et il y a 1500 assistants. 145 000 questionnaires sont distribués. Là, il s'agit de faire des enquêtes épidémiologiques sur les suites de Hiroshima pour voir ce qui se passe. Eh bien, quand les États-Unis arrivent, quelques experts, les premiers experts arrivent début septembre. Puis, quand la commission de censure s'établit à la mi-septembre, si ma mémoire est bonne, c'est le 14 septembre, une commission de censure dans laquelle il y aura 9000 personnes qui vont travailler, tout ce matériel, tout le matériel d'enquête qu'avaient effectué les scientifiques japonais, les médecins, etc., tout, absolument tout, est réquisitionné et envoyé directement aux États-Unis. Alors, par la suite, quelques questionnaires seront retenus et certains scientifiques militaires et civils américains qui vont opérer à Hiroshima vont s'en servir sans dire qui des équipes japonaises avait été à l'origine de ces enquêtes, c'est-à-dire en prenant, sans déclarer la paternité de ces études-là. Et donc, ce Tsuzuki Masao, il va jouer un certain rôle parce qu'il est anglophone, parfaitement anglophone. Donc, il va faire partie c'est lui qui va faire la jonction entre les équipes américaines et les équipes japonaises. Mais manque de chance pour les équipes d'occupation, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et il pose des questions un peu gênantes, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des suites au bombardement, quelles sont les suites attendues, d'où ça peut venir, etc. Ce qui fait que le comité de censure, un an plus tard, en octobre 1946, va le limoger de tous ses postes et intimer l'ordre au gouvernement japonais de le virer de l'université, de la faculté de médecine de Tokyo et de toutes ses responsabilités. Pour la petite histoire, Tsuzuki Masao, c'est lui qui va soigner tous les marins qui, en 1954, auront été irradiés par la bombe H la plus puissante des États-Unis, qui est l'essai Castle Bravo, et qui va faire un certain nombre de morts dans l'équipage japonais. C'est lui qui va les soigner, qui va fonder une année plus tard l'hôpital de la bombe A à Hiroshima. Je passe sur des détails. Si vous voulez, tout ce qui pourrait donner aujourd'hui la base de ce que produisent les irradiations et les contaminations radioactives, tout ce matériel-là, soit est encore Secret Défense, soit pour certains, ont brûlé dans les archives de je ne sais plus quelle université de Pennsylvanie, soit lorsqu'elles sont déclassées de manière sélective. Et toutes les enquêtes qui vont être la base de tous les usages, y compris de la radiographie et des scanners, etc., encore au jour d'aujourd'hui, toutes ces enquêtes donc vont être remplacées par les enquêtes que vont mener deux généticiens qui s'appellent Neil et Schull, deux généticiens des États-Unis, donc qui, depuis Ann Arbor au Michigan, vont piloter les nouvelles enquêtes épidémiologiques à Hiroshima et Nagasaki, et qui vont se débrouiller, faut bien dire les choses comme elles sont, pour faire en sorte que il n'y ait, comme le disait Groves dès septembre 45, aucune suite à attendre de ces bombardements atomiques, et que tous ceux qui devaient mourir sont morts déjà sur place. Et donc, si vous plongiez dans ces enquêtes épidémiologiques, mais c'est incroyable, quoi. Les manipulations auxquelles ils se livrent, quoi. Bon, pareil, je vais juste donner un exemple. Une des manières de repérer les suites génétiques de la contamination ou de l'irradiation, c'est par exemple de faire des enquêtes sur des couples qui ont eu des enfants dont le père a subi une irradiation, mais pas la mère. Et pourquoi ? Parce qu'on sait que sur le 23e chromosome des spermatozoïdes du père, le chromosome X, il y a, quand il y a irradiation ou contamination, il y a un effet létal, c'est-à-dire mortel. Et donc, on le sait, qu'il y a, par exemple, naissance de moins de filles que de garçons à cause de ce phénomène-là. Je dis bien, je répète, quand les pères sont irradiés et que les mères sont indemnes, c'est-à-dire n'ont pas subi d'irradiation. Donc, ça vient directement. Là, il y a une transmission génétique de par le fait. Et donc, ils s'arrangent, tous les deux, là, Schull et Neil, ils ont d'ailleurs participé à une entreprise qui est incroyable, qui s'appelle l'ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission, je vais en dire un mot après. Une entreprise incroyable, incroyable. Ils s'arrangent pour des milliers et des milliers d'enfants qui ont été enquêtés par cette fameuse institution, l'ABCC, en fait. Il n'y a aucun groupe dans lequel on puisse retrouver le père irradié et la mère non irradiée. Ce qui fait qu'on ne peut rien en déduire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sûr des suites génétiques puisqu'on n'a pas de groupe témoin de ce qui aurait pu se produire. On n'a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ils ont tout mélangé les groupes. Je vous passe sur les détails parce que ça serait très 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 long. Mais si vous, un mot sur l'ABCC. American Bomb Casualty Commission. Elle s'établit en mars 1945 sur les hauteurs d'Hiroshima. Super bâtiment, une flotte de plusieurs centaines de jeeps, jusqu'à 1000 employés, des microscopes et tout le matériel le plus moderne, à partir des années 50, le microscope électronique, des machines IBM pour gérer les dossiers des patients. Et qu'est-ce que fait la BCC ? Ils vont chercher les habitants d'Hiroshima, et la même chose à Nagasaki. Ils font un certain nombre de relevés sur leurs symptômes, sur la progression de leur maladie, et ils filment même, ils prennent des notes, ils renseignent leur protocole d'enquête, etc. Mais en 30 ans, pas un Japonais qui est passé par cette ABCC n'a été soigné par ces gens-là. Pas un, vous m'entendez ? Pas un. C'est-à-dire que c'était juste un truc d'enquête sur les cobayes. Ça revient stricto sensu à ça. C'est un parmi les scandales de cette question. Et, comment dire, je voudrais en arriver aux conclusions, parce que ça commence à se faire tard, et qui sont au nombre de 6. Comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que le nucléaire, c'est le fils aîné de la science du XXe siècle. Ça n'aurait pas pu exister sans la relativité et sans la physique des particules. Et c'est même, ça a porté la physique à son summum de puissance. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit à l'époque de quelque chose qui est bien mis au point. Il s'agit d'une stratégie du choc qui doit sidérer les consciences au niveau international. À l'intérieur du project, du Manhattan Project, il y a des commissions dont j'ai reproduit les comptes rendus, dans laquelle on discute de la manière de frapper l'opinion mondiale. Et précisément, et il y a même des psychologues qui participent à ces discussions. Le troisième point, c'est que le nucléaire est en fait une arme de destruction totale, la plus absolue qui a été mise au point, et la plus moderne. De fait, on pourrait dire que alors que Auschwitz, c'est tout un, comment dire, c'est une mise en place d'une mort industrielle avec un appareil, une logistique continentale, puisque les trains venaient de toute l'Europe. Là, il s'agit d'une étape supérieure de l'industrialisation capitaliste, en quelque sorte, dans le sens où pas besoin d'appareils logistiques pour détruire en masse les individus. Il suffit d'un macro-système, de la mise en place d'un macro-système technique, c'est-à-dire des gens qui pilotent depuis les États-Unis la base d'aviation aérienne de Tinian, qui elles-mêmes pilotent les avions, qui eux-mêmes pilotent la bombe, et dont la hauteur des détonations est calculée pour faire le plus de dégâts possible, contrairement à ce qu'on entend et à ce qu'on lit dans certains livres. La hauteur de détonation a été calculée pour faire le plus de dégâts possible. Si une bombe, n'importe quelle bombe d'ailleurs, mais en l'occurrence, éclate au sol, une partie de l'énergie se déverse dans le sol en quelque sorte. Et si elle éclate trop haut, ben l'énergie se disperse dans l'atmosphère. Donc ces bombes, aussi bien celles de Hiroshima et de Nagasaki, donc Hiroshima, c'est 14 000 tonnes, l'équivalent de 14 000 tonnes de TNT, et Nagasaki, 19 000 tonnes, comme celle du premier essai, à peu près la même chose, elles explosent à des hauteurs, 580 mètres à Hiroshima et puis je ne me souviens plus à peu près à la même hauteur à Nagasaki, de manière à le faire le plus de dégâts possible. Mais c'est beaucoup plus fin le calcul, je vous donne les grandes lignes, c'est-à-dire qu'ils avaient calculé que si on l'avait balancé à Tokyo, comme à Tokyo il y avait des immeubles qui étaient en acier, eh bien il ne fallait pas la balancer à la même hauteur, alors qu'à Hiroshima ils décident de la balancer en centre-ville où les habitations sont plutôt en bois et légères. Et donc, ils calculent la hauteur de détonation en fonction même du type d'habitat qui existe à Hiroshima. Je dirais aussi autre chose, c'est que y a ceux qui ont subi les suites de Hiroshima-Nagasaki, qu'on a appelé les Ibakusha, ont attendu 12 ans en 1957 pour que leur statut de gens qui étaient contaminés et irradiés, soient reconnus par le gouvernement japonais. 12 ans, en 1957. Au passage, on pourrait se poser des questions sur qu'est-ce qu'il est advenu pendant toute l'occupation états-unienne, c'est-à-dire entre 1945 et 1952. Là, il y a des questions à se poser. Hein. Et puis, le quatrième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en fait, le nucléaire en tant que tel est un crime contre l'humanité, doublé d'un écocide. Pourquoi ? Alors, peu de gens ont lu ce rapport, qui est connu sous le nom de série, qui est le rapport qui a été élaboré par 46 scientifiques dirigés par Chris Busby, qui a été fait en 1998 à la demande des députés verts européens, certainement une des rares bonnes choses qu'ils aient fait, et qui étudie les suites du nucléaire depuis 1945. Il est aussi disponible en ligne, ce rapport, sous forme PDF. Et qu'est-ce que disent ces 46 scientifiques ? Ils disent, chose qu'on peut aussi apprendre en étudiant les débuts du nucléaire, c'est qu'en fait, tous les usages d'aujourd'hui, aussi bien radiographie, scanner, vous savez qu'on irradie même la viande pour qu'elle reste rouge le plus longtemps possible, qu'on irradie les épices pour qu'elles restent stables, etc. Et toutes les normes qui sont aujourd'hui en vigueur, par exemple dans les centrales nucléaires, pour ceux qui y travaillent, ils disent que toutes ces normes devraient être divisées par 10. Alors vous voyez bien que si, enfin on sait bien maintenant que si ces normes étaient effectivement divisées par 10, c'est la fin de l'industrie nucléaire. Autrement dit, une autre manière d'aborder ça, c'est qu'en fait, c'est le nucléaire, c'est pas seulement les bombardements initiaux et même l'existence. Un point de détail par rapport au 16 juillet 1945, c'est-à-dire bien avant Hiroshima, Nagasaki. 20 jours après, sur la côte ouest des États-Unis, le niveau d'irradiation qui était surveillé monte en flèche. Et de quoi, qu'est-ce qu'ils comprennent assez vite, c'est qu'en fait, les jet streams ont fait faire le tour du monde aux retombées radioactives, aux nuages radioactifs, pardon. Il revient 20 jours après. Et ils le comprennent, pourquoi ? Parce que les jet streams étaient connus dès les années 20. Et ils le comprennent, ça. Donc, quand ils prennent la décision de bombarder Hiroshima, non, je vous ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de détails, mais dans l'essai qui a lieu à Lama Gordo le 16 juillet, il y a des personnes qui sont à 32 km, ils s'appellent les Radcliffe, des grands-parents avec leurs enfants qui sont irradiés à 32 km. Hein. Ils le savent. Donc, ils savent aussi que le nuage a fait le tour de la Terre. Donc, quand ils prennent la décision de bombarder Hiroshima et Nagasaki, ils savent très bien que la Terre entière va être l'objet des retombées. Chose qui a été maintenant, comme Claude Lorius le dit dans son livre, sur l'Anthropocène, une histoire d'Anthropocène. C'est un glaciologue qui a travaillé dans le pôle sud dans les années 60, et quand ils se sont aperçus, quand ils faisaient des carottes glaciaires, dans le pôle sud, ils ont retrouvé des retombées radioactives au pôle sud. Ce qui signifie que toute la Terre entière, et ils les dataient, ils ont daté précisément les explosions. 16 juillet, 6 août et 9 août, quoi. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que quand les militaires, les politiques et les scientifiques prennent la décision de bombarder, ils savent déjà, en fait, qu'ils commettent un crime, non pas seulement contre le Japon, un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est un crime contre l'ensemble de l'humanité. Et en plus, un écocide dans le sens... Alors, chose... Faites-moi penser à dire quelque chose sur le scanner abdominopelvien, parce que c'est important. Et parce que j'en ai subi. Comment dire ? Chose qui est pratiquement pas connue. Je veux dire par là, c'est pas seulement les trois bombes atomiques, c'est pas seulement les 2400 essais nucléaires, mais c'est l'existence même des centrales nucléaires, avec tout ce que ça comporte, qui continue aujourd'hui à répandre des radionucléides dans l'atmosphère. Mieux que ça. Quand il y a des vents du sud qui viennent du sud, et ça, j'ai tout ce que je cite, je mets ici, dans Alabama, ce manuscrit-là qui est en voie d'édition à 3 exemplaires, donc toutes les sources sont dedans et sont consultables. Je disais donc que lorsqu'il y a un vent du sud et que vous voyez du sable qui a été transporté et qui vient du Sahara, qu'on voit souvent à Marseille, par exemple, eh bien, la plupart du temps, il y a en même temps des radionucléides, des anciens tertres qui, euh, de Hinecker ou de Reagan qui viennent apporter aussi leur lot de radionucléides, et en même temps que les poussières du Sahara. Ou bien, quand il y a des incendies du côté de Tcheliabinsk et de Mayak, ou bien même maintenant de Tchernobyl, quand il y a des incendies, ça remet en suspension, et pour peu que les vents soient... qu'ils soient de l'est ou de l'ouest, de toute façon, il y a des humains qui vont être sur le passage. Donc, si vous voulez, le nucléaire, c'est quelque chose qui perdure. Et c'est un crime contre l'humanité qui n'est pas datable à le 6 et 9 août. Non, non, pas du tout. Le nucléaire, c'est un crime contre l'humanité et un écocide. Bon, il n'y a qu'à voir comment mutent les papillons autour de Fukushima en ce moment, par exemple, qui perdure et qui est là tous les jours. Faut bien comprendre cette spécificité de crime contre l'humanité du nucléaire.
Un détail, il n'a jamais été fait d'études épidémiologiques sur les incroyables nombres d'augmentations de cancers en Algérie pendant et après les essais nucléaires. Les Verts auraient été bien attentionnés de demander une enquête. Et les Algériens ont ces chiffres. Mais le gaz avant tout.
Exact. Il y a un Algérien qui a fait un film là-dessus qui s'appelle Gerboise Bleue.
Il a fait un film, mais moi je connais des cancérologues qui ont les chiffres. Mais ils sont menacés de mort.
Il y a une omerta terrible sur cette. Alors, juste un mot.
Il faut rappeler que tous les essais français étaient aériens.
À Hinecker, ils ont été parfois souterrains, mais ils ont fait exploser la montagne, ce qui fait qu'on voit les photos de deux ministres en train de tailler la route en deux chevaux. Oui. Il y en a un des deux, d'ailleurs, Poniatowski, qui est mort d'un cancer. Alors, on ne sait pas si c'est suite à ça,
mais
en tout cas...
75 ans, c'est
pas... Oui, c'est pour ça que je dis on ne sait pas.
Mais la chute depuis l'an dernier de la mortalité masculine en France, j'aimerais bien savoir. Il y a les pesticides, bien sûr, mais il y a les essais nucléaires.
Bien sûr. Juste un mot, alors juste pour terminer, je ne vais pas citer les six points. Les scanners, oui, juste un mot sur le scanner, oui. Un scanner abdominopelvien. Je dis bien abdominopelvien, c'est-à-dire où les gonades sont en jeu, les testicules ou les ovaires pour les femmes. C'est 25 millisieverts, la dose que vous prenez. Et donc, d'après les études donc, de Chris Busby et du CERI, c'est quelque chose, c'est un type d'examen qu'on ne devrait pas passer plus qu'une fois tous les 10 ans. Parce que là, vous atteignez des doses qui ont des effets. Alors après, ça dépend du terrain, des organismes, etc. Mais juste une chose, l'autorité de sûreté nucléaire, il y a quelques années, s'est couvert en disant, en faisant des annonces, disant « Aïe, 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 attention, il y a un usage dans les dernières années de plus de 47% de l'imagerie médicale en France. » Mais quand moi, par exemple, j'ai apporté à mon médecin de ville un tableau Excel dans lequel j'avais pris toutes les radiographies depuis 20 ans et que j'avais sommé ça, etc. Il a regardé, d'abord il n'a pas compris ce dont il s'agissait. Enfin bon, j'ai expliqué, il a vite compris. Mais, l'ASN a alerté l'opinion, mais ça n'était suivi d'aucune recommandation. Il pourrait très bien dire, par exemple, aux médecins de ville, attention, ne préconisez pas des examens, des scanners comme ça à tout va. Tenez un tableau de vos prescriptions à chaque patient pour savoir où ils en sont, quoi. Et donc, mais ça, rien du tout. Le seul qui est... Enfin, quand j'ai donné ça à un médecin spécialiste, lui, il a très vite compris. Il a rangé ça dans mon dossier et puis c'était un oncologue. Il a motus et bouche cousue, quoi. Parce qu'il avait compris de quoi il s'agissait dans ce tableau Excel. Les deux derniers caractères, et j'en aurais terminé là avec l'exposé, c'est que quand on étudie ça, il y a là quelque chose d'une régression historique inédite dans l'humanité. Parce que d'une part, ça j'y reviendrai, c'est ce complexe qui se met en place avec le Manhattan Project. C'est un complexe qu'on appelle militaro-industriel, moi que je préfère appeler scientifico-militaro-industriel, qui petit à petit prend le pouvoir dans les appareils d'État de l'Occident et qui dicte sa loi petit à petit. C'est pas aussi simple que ça. Bon, faudrait développer, quoi. Mais voilà, j'ai pas le temps. Et on peut dire que là aussi, il y a une rupture et il y a un saut dans le sens où ce qui va se faire après 45, c'est ce que Berland, Testard, Sirinelli et d'autres ont déjà écrit depuis quelques années. C'est une guerre aux vivants qui se met en place. Et le truc des 30 glorieuses, des soi-disant 30 glorieuses, c'est qu'un truc, c'est ce qu'on appelle en économie politique marxienne, une économie de rattrapage keynésienne qui masque ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est-à-dire, par exemple, les dizaines de milliers de molécules chimiques mises sur le marché sans autorisation de mise sur le marché, la soi-disant révolution verte avec l'empoisonnement des sols, l'empoisonnement des végétaux, l'empoisonnement des êtres humains, l'empoisonnement des agricultures, des agriculteurs et des animaux, etc., etc., toute la chaîne d'empoisonnement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Bon, enfin, j'en oublie. Donc,
l'apparition de la faim dans le monde.
Oui. En tout cas, oui. En tout cas, moi, je soutiens qu'il y a là un basculement du capitalisme, mais ce n'est pas l'objet de cette séance-ci. Mais il y a un point de rupture, quoi. Il y a un point de rupture qui se met en place. Et les deux témoins de ces points de rupture, c'est Auschwitz et Hiroshima, quoi. Donc, le sixième et dernier point, je l'ai développé, c'est sur le fait que, en fait, les complexes scientifico-militaro-industriels vont jouer un rôle déterminant dans les appareils d'État. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait le plus vite que... Voilà. Je vous fais circuler ce bouquin. Pour ceux qui lisent d'anglais, il est en PDF, mais bon...
Je crois que c'est le premier numéro, le deuxième, de La Gueule Ouverte, qui dénonçait les radiations des radios seulement à l'époque.
Ouais, pendant 10 ans, on a fait des radiographies des femmes enceintes, jusqu'en 1955, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que ça a impacté le fœtus. En 1955, on a arrêté. Non. C'est les ultrasons.
Et tu n'as pas relevé qu'à la fin du rapport du CERI, il y a quand même un chiffre absolument incroyable. C'est le nombre total de personnes décédées du fait de l'existence de la radioactivité. Et je crois que ce nombre de personnes est supérieur au nombre de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 60 millions de personnes qui sont décédées depuis 1945 dans le monde à cause de la radioactivité. Et le tableau est à la fin de ce rapport du CERI.
Page 167, exact, Thierry. Je peux dire juste deux mots. Ce que vient de dire Thierry, là, et qu'on avait déjà souligné, que j'avais déjà souligné il y a quelques années, à partir de ce rapport, j'étais étonné d'ailleurs. Je vais vous dire, j'étais dans un colloque où il y avait beaucoup d'historiens des sciences en septembre 2011 à l'EHESS. Quand j'ai montré ce rapport, il y avait des spécialistes là du nucléaire, je ne citerai pas leur nom, mais personne dans la salle ne connaissait ce rapport. Personne. Mais je vous dis, si bien qu'il y a quelqu'un, enfin maintenant je peux le dire, bon, Christophe Bonneuil, je connais bien, qui est venu à la fin de la séance, il m'a dit, mais comment ça se fait que tu connais ce rapport? T'es un militant anti-nucléaire? Vous voyez ce que je veux dire? À la fois, c'est une manière de se dédouaner quelque part, parce que ça avait quand même fait partie du boulot de ceux qui font de l'histoire des sciences, de connaître l'histoire du nucléaire, hein, quand même, et de ce qui s'est produit, et de ce type de rapport extrêmement important. Ce qu'a dit Thierry est extrêmement important. Pourquoi? Ça vous donne l'image, si vous voulez, quand ce rapport soutient qu'il y a eu 65 millions de morts suite à tout ce que je vous ai dit de l'existence de nucléaire depuis 1945, bon, c'est pas des chiffres. Hein,
il n'y a pas des voyez... Algériens dedans. Non, je précise que ça fait des millions de gens. depuis les essais nucléaires. Des millions de gens.
Donc, ça vous donne un ordre d'idée, puisqu'on dit qu'il y a eu 50 millions de morts suite à dans la Deuxième Guerre mondiale. Un autre exemple dont je disais tout à l'heure, cette histoire de 30 glorieuses, c'est une mythologie développée par Fourastier et les autres. C'est que, par exemple, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près aussi 60 millions de gens qui sont morts d'accidents de la route et deux fois plus de blessés graves, par exemple. Bon, c'est pas n'importe quoi non plus quand on... Je veux dire, c'est presque rentré dans les mœurs, quoi. Sauf qu'en France, on était le pays qui avait le plus d'accidents mortels il y a encore 10 ou 15 ans, puisque ça frisait 15 000 morts par jour. Par an, pardon. Excusez-moi. Par an. Certains s'en souviennent peut-être, ça. Le scandale que c'était. 15 000, pardon. Je commence à être fatigué, là. Donc, ça vous donne une idée... Ça vous donne une idée de l'importance. La question, c'est est-ce que oui ou non, ça fait événement historique, quoi. Est-ce que oui ou non, on peut parler à partir de ce moment-là, est-ce que oui ou non, 1945, c'est un point de rupture dans l'histoire du capitalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, excusez-moi.
Est-ce que tu penses que les courbes dites de la grande accélération, justement à partir de 1945, c'est l'article dans Nature de Parnovsky, je crois.
Oui, oui.
Et
mais ça a été repris.
C'est très réutilisé par
Fressoz.
Oui,
ça vient du site aussi qui est dans le site de Globaya. Donc, moi, à mon avis, c'est comme la brutalisation de Georges Mosset, quoi. L'historien Georges Mosset qui dit après la guerre de 14-18, il n'y a rien qu'une brutalisation des mœurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas seulement une brutalisation des mœurs en Europe occidentale. C'est bien au-delà de ça. Ben oui. Et après 45, quoi, c'est pas seulement une accélération de toutes les nuisances et de tous les effets du capitalisme. Non, c'est un capitalisme qui est directement producteur de mort, alors que c'était seulement la marchandise qui véhiculait la mort, en quelque sorte, dans la théorie, on peut dire ça. Eh bien là, c'est une production de la mort. On peut dire que c'est une... Donc, c'est pour ça que... Voilà, c'est une industrie de la mort. C'est pour ça que je soutiens qu'il y a un point de rupture, là.
Mais c'est 1916, le point de rupture. C'est pas 14.
Par rapport au gaz ?
Par rapport à tout. La bascule, c'est 1916.
Oui, mais c'est un point commode. Pour reprendre aussi le truc d'Obsban.
Il y a comme une mesure entre 14 et 16. 14, oui, mais... on y va encore avec...
Ceci dit, le 27 août, du côté français seulement, il y a 27 000 morts. Hein.
Oui.
14.
Et comme on disait, beaucoup avec des balles dans le dos. C'est pour ça qu'ils ont été inconnus.
Ouais, c'est bon.
Plus complexe
aussi. Oui, oui.
La 1916, c'est la base.
Il y a eu différentes étapes, etc. Mais moi, j'ai mon grand-père qui a fait la guerre qui me racontait des trucs.
On commence déjà à mettre des avions
pour surveiller. Il y a Audouin Rousseau aussi qui a dit des choses intéressantes.
C'est la bascule industrielle.
Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit là?
Des armes automatiques, des gaz.
Des industriels allemands.
C'est l'industrialisation de la mort.
Ça ne sert à rien.
Et allemands et américains aussi.
Oui. Ils étaient bien d'accord.
Toutes les inventions, la photo, tout. Pendant les guerres, on invente tout.
Oui, c'est un permis
de voir. Dont Marie Curie qui va aller former mon grand-père, entre autres, pour faire des radios, pour pouvoir mieux opérer pendant la guerre. Elle va former plus de 100 médecins qui sont des radiologues aussi.
Et est-ce que c'est vrai que ce sont la bande Curie, je crois, en 39, qui vont déposer à l'Académie des sciences deux brevets sur l'art de fabriquer la bombe?
Non, c'est pas sur l'art, c'est Joliot-Curie qui dépose des brevets en 39 et 40. Il dépose 5 brevets sur les explosifs. C'est Joliot-Curie, oui, c'est pas Marie Curie.
Marie Curie va faire des interventions.
Je fais un petit point parce que je crois qu'il y a des gens qui ont envie de partir. Donc ça n'empêche pas de continuer la discussion après. Mais la prochaine séance, du coup, c'est le 12 mars, samedi 12 mars. Donc l'idée, c'est que ce soit tous les deuxièmes samedis du mois. Et donc 16h30 et non pas 17h comme ça a été annoncé à un moment. Je sais pas si tu veux réannoncer le programme comme ça.
Non, je le mettrai en ligne et je mettrai d'autres textes préparatoires en ligne. Vous avez en ligne les 4 textes qui m'ont demandé un sacré boulot parce que, en fait, 4 textes de 10 pages, c'est le résumé de 150 pages, 330 notes de bas de page, etc. J'ai viré toutes les notes de bas de page, hein, je vais vous dire. Mais je fais un résumé qui est abordable, quoi. 4 fois 10 pages, quoi. Bon. 4 points, là, c'est facile. Sur le BAM, sur le site du BAM, de la BAM, il y a les 4 textes. Et je mettrai systématiquement, on mettra les enregistrements, et on mettra systématiquement en ligne des textes préparatoires et des textes après aussi les séances.
Bravo, parce que c'est vraiment consistant.
Non, c'est pas bordé, c'est ce que je voulais
avoir. Ouais, ça, ça